Alors, on va commencer par ce qui nous tient le plus à cœur, enfin très à cœur, on va dire, évidemment, c'est la recherche. On a été très frustrés cette année de ne pas pouvoir faire la rencontre annuelle, d'autant qu'on avait 31 médecins et chercheurs présents qui avaient répondu présents cette année. Mais c'est comme ça. Et par contre, ils ne nous ont. J'ai sollicité deux ou trois fois des topos sur ce. Oui, des topos sur ce qu'ils voulaient nous dire. En fait, ils sont complètement submergés par la pandémie et par les conséquences au niveau des laboratoires. Et en deux mots, je vais le dire tout de suite, par rapport au laboratoire de recherche, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas pu aller ou une personne de temps en temps dans les labos pour entretenir les cultures cellulaires, les drosophiles, les souris et compagnie. Donc, il y a énormément de pertes. Ça veut dire aussi que quand on travaille sur une cellule ou sur un animal à J15, J30, on doit analyser ce qu'on est en train de, par rapport à une molécule, etc. Donc, tout ça, c'est à recommencer. Évidemment aussi, ils sont très inquiets par rapport aux problèmes économiques qui vont suivre. Là, beaucoup sont en train de faire passer les examens comme ils peuvent de post-doctorants, thésards et compagnie. Mais beaucoup de ces gens-là travaillent par CDD et ils ne savent pas du tout comment ça va aller après. Donc, je n'ai plus demandé de topo parce que je les sens sous l'eau avec la volonté, évidemment, de redémarrer au plus vite. Évidemment, tout a pris du retard. Pour les cliniciens, ça a été compliqué aussi. Certains ont travaillé sur le Covid et ils ont mis en place pour certains des téléconsultations. En euros, c'est un peu compliqué. Et même chose, tout se remet en place et ils espèrent qu'en septembre, octobre, tout sera vraiment carré au niveau sanitaire en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas une reprise de la pandémie. Donc, très compliqué pour tout le monde et je crois vraiment, mais vraiment, autant je sens le découragement de beaucoup d'associations de maladies rares parce que pas de réunion, parce que pas de lien, parce que pas, voilà, silence au niveau des médecins et des chercheurs. Parce que les gens n'ont pas payé encore leurs adhésions, etc. Parce que pas de manifestation, pas de rentrée de fonds. On a eu des réunions avec Alliance Maladies Rares sur ce sujet. Je crois vraiment qu'il faut là qu'on se serre les coudes, qu'on ne baisse pas les bras et qu'on dise à toutes ces équipes de recherche qu'on est là. Voilà. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on a fait en 2019 et à chaque fois qu'on aura l'occasion. Quand on va aborder un thème de parler des axes de travail futurs, on va le faire en même temps. Donc, je vais laisser la parole à Madeleine pour que tu nous parles de l'appel d'offres 2020 qui a été long à mettre en place aussi. Vas-y. Madeleine?
Voilà, oui, c'est bon, il faut le temps d'activer mon micro.
Vas-y.
L'appel d'offres 2020 a été lancé la semaine dernière ou la semaine d'avant, enfin tout récemment. C'est pas trop tard puisque on demande que les dossiers, les demandes de subventions et les projets soient déposés pour fin juillet, pour le 25 juillet.
Donc, fin août.
Donc, ça laisse quand même, leur laisse quand même un peu de temps pour les rédiger. On ne sait pas ce que ça va donner cette année pour toutes les raisons qu'a données Juliette. Peut-être qu'il faudra repartir en arrière pour relancer des projets qui ont dû être abandonnés. Bon, on verra bien. Le conseil scientifique se réunira au mois de septembre et de façon à ce que nos décisions puissent être prises, les décisions des conseils d'administration de nos associations, puisqu'on fait ça avec l'association CSC et
ASL.
s'appelle l'autre.
ASL.
ASL, voilà, merci. De façon à ce que nos conseils d'administration puissent valider les propositions du conseil scientifique et que l'argent soit versé avant la fin de l'année, puisque ça, c'est très important pour tous ceux qui, en particulier pour les doctorants qui attendent ça pour pouvoir vivre, travailler et vivre. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je dise
Alors,
d'autre?
rien, enfin rien, on
Oui,
verra
sinon on va
après.
là-dessus.
Alors, on a listé toutes les recherches subventionnées 2018-2019 parce que La plupart des recherches ont été travaillées en 2019. Alors, vous les avez normalement dans les différents rapports, dans aussi la revue régulièrement. Donc, on ne va pas détailler chacune des recherches, mais si vous aviez des questions, évidemment, on sait de quoi il s'agit. Agnès Rotig a fini son travail sur le fer et sur une potentielle molécule utilisée dans la malaria. Attention, on est dans les laboratoires hein, pour l'instant, donc on verra la suite. Véronique Monnier, sur les drosophiles, leur équipe a identifié 11 molécules qui améliorent la fonction cardiaque des drosophiles. On reviendra aussi là-dessus un jour, puisqu'ils peuvent observer facilement le cœur chez la drosophile. On a déjà eu des démonstrations à Nouan. Et cette année, elle va continuer avec Benoît Dautréau. Donc, il continue le projet avec une autre équipe. Louise Corben en Australie, à Melbourne, a fini son travail sur les membres supérieurs qui pourraient servir, avec l'aide d'une cuillère connectée, à être un élément de suivi des essais, parce qu'on demande toujours aux gens de savoir marcher. Et pour ceux qui ne savent plus marcher, qu'est-ce qu'on fait? Et par ailleurs, ils sont en train de travailler sur l'amélioration de cet outil pour les personnes ataxiques qui auraient beaucoup de difficultés à utiliser leurs membres supérieurs. Donc ce travail-là est terminé, mais eux continuent sur cette application pratique. Valérie Serre et Alexandra Dürr, comme énormément de personnes, ont travaillé l'année dernière et continuent à travailler sur des marqueurs. Les fameux marqueurs qui ont tant d'importance pendant les essais, parce que quand on aura des bons marqueurs, soit urinaires, soit sanguin, soit autre chose, on pourra dire au bout de 3 mois d'un essai, non, on voit qu'on va vers l'échec, on l'arrête et on va gagner du temps et de l'argent. Donc, c'est très important d'identifier des biomarqueurs et les biomarqueurs, ben, on n'en a pas encore de très fiables, mais ça avance très fort. On a fait aussi beaucoup de recherches sur la communication, mais ça, on va en parler après. Et donc, vous avez vu dans les dernières revues les subventions qu'on a attribuées suite à l'avis du Conseil scientifique pour 2019-2020, sachant que ces recherches ont énormément de retard, vous l'avez compris. Évidemment, elles vont s'étendre jusque 2021. Et notamment, vous avez peut-être vu qu'il y a deux projets qui s'intéressent aux cellules gliales. Les cellules gliales sont des cellules qui entourent les neurones et qui participent à leur environnement sur un plan chimique électrique qui les nourrissent et qui éliminent les déchets des neurones. Et en fait, on ne s'y était pas trop intéressé jusqu'ici. Et ces cellules, elles produisent la myéline, donc la gaine de myéline qui notamment transmet aussi le signal électrique et notamment au niveau des ganglions du rachis. Et donc, on a deux équipes qui travaillent là-dessus parce que pour nous aussi, il y a une altération à ce niveau-là. Donc, il y a l'équipe de Sandra Agulon et l'autre équipe, c'est Olivier Grisot, qui est le bras droit d'Hélène Puccio et qui travaille là-dessus aussi à l'IGBMC d'Ilkirch. Alors, Valérie Serre et Alexandra Dürr continuent et il y a une autre piste de Fabien Delapre qui travaille sur le calcitriol, qui lui est en Espagne et travaille sur le calcitriol. Qui là aussi augmenterait les taux de frataxine. On revient encore aux neurones des ganglions rachidiens. Voilà une troisième équipe qui travaille parce que c'est bien beau d'augmenter la frataxine, etc. là-haut. Il faut que ça aille dans les différents organes concernés et ça augmenterait aussi la frataxine mature dans les cellules cardiaques. Donc voilà, alors Benoît Dautréau, Véronique Monnier, j'en ai parlé. Michel Koenig, tout le monde connaît le professeur Michel Koenig qui est à l'origine avec Massimo Pandolfo, du gène de l'ataxie de Friedreich, nous avait demandé aussi une subvention pour travailler sur l'étude du rôle des interruptions des GAA, hein, donc vous avez compris au niveau du gène. Voir le lien avec la sévérité de l'ataxie de Friedreich. Et en fait, il a finalement obtenu des fonds publics, ce qui est très rare dans les maladies rares, puisqu'on passe souvent après les priorités publiques, de santé publique. Et en fait, Cyril Goizet, le professeur Cyril Goizet de Bordeaux, qui a aussi intégré le conseil scientifique et l'équipe de La Réunion qu'on connaît, ont décidé d'aussi participer à cette étude qui donc va concerner trois centres. Alors, par rapport à la recherche fondamentale, et après on va arriver à la recherche clinique, Fabrice Giraudet a commencé ses travaux sur tous les problèmes auditifs, et ça a été retardé aussi par le fait qu'il lui manque maintenant un technicien, mais il va continuer. Quant à, aux travaux qui étaient prévus sur les recherches sur la prise en charge clinique, sur différents aspects de la maladie, cet aspect très important pour nous au quotidien, qui avait été démarré par Isabelle Husson, en fait, on a récupéré les fonds et on sait que ces fonds, vu les problèmes de Debré, ces fonds seront de nouveau affectés quand on aura élucidé cette problématique et que tout sera mieux assis. Donc, il y a aussi Hélène qui voulait commencer avec Isabelle une recherche de biomarqueurs. Mais là, elle travaille avec des échantillons qui viennent de l'hôpital Erasme de Bruxelles et avec Myriam Rai. Mais elle travaille à Lyon parce qu'Hélène maintenant travaille sur Lyon et sur Strasbourg, sur l'IGBMC, et va rapatrier tout doucement le labo de l'IGBMC à Lyon. Alors, pour la suite, au niveau des essais cliniques, si je vais trop vite, vous me le dites, hein, et si vous avez des questions, vous les tapez. Nous avons financé pendant 2 ans l'étude ORFA, donc tout ce qui a trait à la communication, et notamment donc la parole, l'élocution et ce qu'ils appellent les fonctions oromotrices, c'est-à-dire les muscles de la cavité orale, parce que jusque-là aussi, personne ne s'était intéressé aux problèmes d'élocution qui pour nous sont capitaux, puisque quand je ne peux plus bien parler, comment je communique, c'est comme les problèmes de la vision ou les problèmes ophtalmo qu'ont certaines personnes, d'autres n'en auront jamais, et certains cumulent malheureusement beaucoup de choses. Donc l'étude ORFA, on l'a financée pendant 2 ans. Elle a montré que quand il y avait une évolution de la mobilité orale motrice, c'est-à-dire en fait l'élocution, il y avait aussi une dégradation de la maladie de façon générale, et ils pensent en faire un des marqueurs dans les essais cliniques. Et là, Stéphanie Borel, qui fait partie du comité national des orthophonistes, qui est enseignante, va intégrer l'ICM donc avec l'équipe d'Alexandra Dior au mois de septembre. Elle va aussi déménager sur Paris. Et donc, l'équipe va travailler sur des recommandations, vu qu'on comprend mieux les phénomènes, les problèmes d'élocution, y compris d'élocution, et même, ça touche aussi l'audition, on en parlera après, pardon, chez les malades qui ont l'ataxie de Friedreich, chez les personnes qui ont l'ataxie de Friedreich. Évidemment, l'idée, c'est de faire des documents actualisés sur la prise en charge orthophonique de l'élocution, entre autres. Donc, tout ça, ça bouge, et ça rejoint aussi l'essai clinique Speech Attacks, qui est un essai international entre l'Allemagne, l'Australie et la France, qui, en France, cet essai va démarrer en septembre. Et il va s'agir pour ceux qui vont participer à cet essai de travailler à domicile 20 minutes par jour. Ça va être enregistré, ils auront des exercices à faire. Et avec l'aide, il y aura aussi la participation d'orthophonistes proches de la région. Il va y avoir des déplacements à Paris une fois par mois pendant 4 ou 5 mois. Et ce travail a déjà été commencé en Australie, à Tübingen, en Allemagne. Et en fait, les premiers résultats sont… Enfin, ce qui se détache, c'est que les personnes qu'on ne comprenait plus très bien avec ce travail d'auto-rééducation sont beaucoup plus intelligibles. Donc, pour nous, c'est un travail important qu'on soutient avec les fonds de FARA et de la FAF qu'on a récoltés lors du peloton de l'espoir il y a 2 ans, 3 ans. Donc, ça, c'est intéressant par rapport à tout ce qui est communication, et c'est un travail qui n'avait jamais été fait avant parce qu'on s'intéressait toujours à la marche, et vous le savez, de prendre des petits bouts de bois et de les mettre dans les trous. Donc, nous, on veut que s'intéresser à l'ensemble de la personne et notamment aux autres problématiques pour évidemment les traiter, mais aussi pour avoir une meilleure qualité de vie. L'étude CARFA. Alors, CARFA, c'est le cœur qu'on a soutenu avec Françoise Poussé à la Pitié-Salpêtrière. L'analyse des données est toujours en cours. Il y aura probablement d'autres études derrière sur le cœur parce que autant au début on nous a dit pas intéressant de travailler sur le cœur, on connaît tout, ben Tintin, on connaît rien du tout. Donc ce qui se dégage apparemment, mais on n'a pas encore eu la publication qui est en cours d'écriture et Françoise m'a dit qu'elle allait nous faire un topo bientôt, c'est que ça serait plus une atteinte du muscle cardiaque que, par exemple, comme on le voit dans des troubles électriques cardiaques ou insuffisance, il y a une insuffisance cardiaque qui est due à ça, mais ça ne serait pas des problèmes de troubles du rythme, etc. Parce que le muscle cardiaque, le myocarde, comprend beaucoup, beaucoup de mitochondries et très, très riche en mitochondries. Ces fameuses mitochondries qui nous captent le fer et qui entraînent tous les dysfonctionnements. Et donc ça, c'est ce qui ressort, c'est qu'il va falloir plus s'intéresser à ça et toujours à l'atteinte mitochondriale. Donc on sera tenu au courant du reste et je pense que s'il faut soutenir une autre recherche, on va le faire. Alors un essai qui va enfin démarrer, mais on croise les doigts tant que c'est pas fait, on n'y croit pas. L'essai nicotinamide, Nicofa, c'est un essai européen pour lequel on nous a demandé il y a, je sais pas, au moins 4 ans. De nous engager, nous, la FAF, spécifiquement la FAF, y compris financièrement, avant de mettre en place les choses. Il a eu énormément de retard parce que à cause de la réglementation européenne et des différents pays. Et là, la phase 2 et 3 ont montré qu'il y avait une bonne tolérance. Et là, ils en sont à déterminer la dose optimale efficace sur les malades. Le nicotinamide augmente partiellement le taux de frataxine, mais alors ce qu'il leur manque encore, toujours la même chose, des bonnes échelles d'évaluation. Et ils vont rajouter l'IRM de la moelle épinière comme marqueur, parce qu'ils ont des signes. Les autorisations d'essai, et ça c'est de 7 semaines, sont au vert pour tout le monde. Et donc le médicament a été produit et est arrivé en Allemagne malgré la période de difficulté due au Covid. Et donc cet essai, dont 13 patients à la Pitié-Salpêtrière, devrait débuter cet automne. Tout est au vert, tout est bon, donc ça va démarrer. L'essai FRAM. Alors l'essai FRAM, c'est avec le Minorix, c'est avec le laboratoire Minorix Thérapeutique. C'est donc un dérivé de la pioglitazone. L'essai est en phase 2A, c'est-à-dire l'efficacité et la sûreté d'emploi et déterminer la dose efficace. Le critère d'évaluation primaire, c'est l'IRM du cerveau et de la moelle épinière. Le critère de recrutement, c'est toujours la marche. Et il y a 39 malades pour tout pays confondu. Il y en a 7 qui ont quitté l'essai pour des raisons d'œdème. Voilà, donc l'essai n'est pas terminé. Donc pour l'instant, on ne peut pas avoir quoi que ce soit, évidemment, au niveau des résultats. Et les analyses ne sont pas démarrées parce que l'essai devrait se terminer en septembre. Ils ont pu quand même continuer pendant le Covid parce que quand ils ont pu aller à domicile des personnes, ils y sont allés. Ça a très peu de retard, en fait, cet essai-là par rapport à la pandémie. Speech Attacks, j'en ai parlé. Par contre, le recrutement pour faire partie de ce traitement intensif à domicile de l'élocution n'est pas encore terminé parce qu'ils prennent les participants éventuels et ils sélectionneront après ceux qui pourront faire l'essai. Donc, le recrutement est encore possible. Si vous voulez en faire partie, vous envoyez un mail à Madeleine ou à moi qui vous mettront en contact avec Marie Billet, qui est attachée de recherche clinique dans l'équipe d'Alexandra Dieu. Le matériel pour l'étude est en cours de commande parce qu'il faut un système de pas mal de matériel à la maison. Et le personnel orthophoniste est encore en cours de recrutement. Mais bon, en septembre-octobre, ça devrait être bon. Dernier projet, enfin, ce n'est pas tout à fait le dernier, la thérapie génique. Alors, La thérapie génique, on est toujours tous en espoir, en espérance. Alexandra, lors de la réunion à Île-de-France, qui avait été reportée à cause des grèves en février à Paris, est venue le samedi après-midi et s'est dite déçue de l'avancement concernant la thérapie génique. Et j'ai eu Myriam et Hélène. Avec Hélène, je n'ai pas parlé de ça, pardon. Et Myriam et Massimo Pandolfo qui m'ont dit aussi qu'ils trouvaient que c'était long. Voilà. Et que bah, je vous le dis, qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas dire le contraire, que c'est plus compliqué que prévu parce que dans certaines thérapies géniques, la protéine augmente, mais malheureusement, les symptômes n'ont pas été très améliorés. On sait que Voyageurs, et ça c'est d'hier, ils travaillent toujours beaucoup, espèrent l'année prochaine démarrer avec peut-être 3 patients, évidemment, aux US. Mais c'est juste qu'un conditionnel pour l'instant. De toute façon, on vous tiendra au courant puisque Massimo Pandolfo fait partie du conseil scientifique de Voyageurs Thérapeutiques. Et donc, on est fort en lien avec Farah, etc. Donc, vous serez tenu au courant des avancements. C'est clair que sur le papier, ça devrait aller vite, mais en pratique, ben, malheureusement, c'est beaucoup plus long qu'on l'imagine et on comprend le découragement de certains. Je salue ici, moi, tous les chercheurs qui travaillent pour nous depuis des années et qui ne baissent pas les bras. Le projet d'Iragène, alors là, on est tout à fait dans autre chose. On va parler de la fin de vie parce qu'énormément de personnes n'y réfléchissent pas de façon générale et pas dans nos pathologies. Et par ailleurs, énormément de soignants au sens large, dans tout ce qui est structure d'urgence ou structure de soins palliatifs, ne connaissent absolument pas notre maladie. Et donc, l'équipe d'Alexandra, et c'est Claire et Benzi qui mènent ce projet, avec Marcella Gargiolo, certains la connaissent. Marcella est la référente AFM en psy, elle est psychologue, psychanalyste, enseignante, enfin... connue, reconnue au niveau mondial, etc. Nous ont demandé il y a déjà 2 ans si on acceptait de partager ce travail avec CSC, Connaître les syndromes cérébelleux, et Huntington, la maladie de Huntington. Nous avons dit oui, mais l'année dernière, ils ont présenté des dossiers qui n'ont pas reçu de financement. Et là, le laboratoire Roche vient de dire qu'ils allaient soutenir financièrement, il n'y a pas de médicaments là-dedans, hein. C'est financièrement ce travail, ça c'est arrivé avant-hier, parce qu'ils s'intéressent aussi à une meilleure qualité de vie. Donc l'idée c'est d'en parler déjà pendant les consultations, c'est-à-dire il ne faut pas attendre de ne plus savoir rien dire ou d'être arrivé Dieu sait où pour en parler. Je peux vous dire par expérience, que quand on traite de ces sujets-là qui font un petit peu peur bien avant, on est beaucoup plus apaisé sur de nombreuses raisons. Donc voilà, ça s'appelle le projet d'Iragène. Vous ne l'avez pas dans tout ce que je vous ai écrit parce que là, je traite aussi de 2020-2021. Pour terminer avec Isabelle Husson, les recherches en ORL, j'en ai parlé. Les recherches pour la vision... J'avoue qu'on est un peu dans le flou, mais vient d'intégrer le conseil scientifique Coralie Phosphoracier, c'est ça Madeleine, je ne sais plus, qui, elle, travaille à l'Institut de la Vision. Et je pense aussi qu'avec José Sahel, qui est mondialement connu et que j'ai déjà rencontré, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Christophe Vernier, qui dirige la filière Brain Team, est très intéressé aussi. Et pour l'instant, on ne sait pas trop par quel bout s'y prendre. Donc, voilà pour les différents essais cliniques actuellement, surtout en France. Et pour tous les essais cliniques dans le monde, allez voir sur Farah, hein, le pipeline qu'on vous avait mis dans la dernière revue. Vous saurez où en sont tous les essais sur les différentes molécules. Et il y a eu l'année dernière énormément d'échanges, notamment sur les réseaux sociaux, comme toujours, sur les travirines, cet antiviral utilisé dans le sida que le professeur Roberto Testi a commencé de façon un peu on va dire, un peu comme Raoult, il en a prescrit après avoir constaté des choses dans son labo à quelques patients. Et en fait, il y a un essai qui va être mis sur place avec un cadre hein, pour qu'on en conclue vraiment quelque chose. Phase 2, c'est-à-dire démontrer l'efficacité et trouver la dose optimale. Normalement, à l'automne, les Italiens ont obtenu les autorisations italiennes. Et en parallèle, Farah commence à s'intéresser à ça et à Ataxia UK. Donc, on en est là pour les travirines et les autres essais. Si Madeleine ou Stéphane ou Charles veulent compléter, je vous passe la parole. Qui veut parler? Ou est-ce que c'est bon? Oui, j'entends plus personne. Est-ce que Stéphane, ce sera peut-être l'occasion de parler et Jacques, de parler de la base de données mondiale, du registre global, puisqu'on parle de recherche. Allô, allô?
Oui.
Oui?
Alors peut-être sur la base de données mondiale. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent. Hein, il y a un projet qui est piloté par Farah. Donc il a constitué une base de données des AF au niveau mondial qui s'appelle FA Registry. Étant donné que c'est un dispositif mondial, comme vous pouvez l'imaginer, ça demande quand même une organisation assez structurée hein, qui accède aux données, comment on gère les données, etc. Donc, il y a une gouvernance qui a été mise en place dans ce domaine-là. La FAF a décidé de faire partie de cette organisation. Dans la mesure, enfin, c'est très important pour nous de pouvoir avoir en fait des données, des recherches qui sont accélérées quand ça se passe au niveau mondial, hein, pas seulement au niveau local. Donc pour l'instant, nous on participe aux discussions à l'organisation. Le site a été changé en fin d'année dernière. Une partie a été traduite en français, mais pas tout. Il y a des aspects éthiques qui sont en train d'être gérés pour s'assurer qu'il y a un alignement au niveau mondial sur les démarches au niveau du site. Donc là, l'équipe d'organisation est en train de finaliser ça. L'idée, c'est vraiment de consolider des informations au niveau mondial pour donner des infos aux chercheurs, le recrutement. Enfin, il y a pas mal d'enjeux autour de ça, notamment entre les États-Unis et l'Europe. Hein, comme on a eu l'occasion de le voir à Washington, il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui sont impliqués dans tous les développements. Il y en a quand même beaucoup encore hein, qui se passent quand même aux États-Unis, compte tenu des moyens qui sont mis en jeu.
Oui. Et alors, puisque tu as cité Washington, on n'y reviendra pas tout à l'heure. Est-ce que Charles et Caroline, qui avaient assisté au congrès mondial cette année, enfin l'année dernière, est-ce que vous voulez en dire quelques mots? Et après, je passerai la parole à Madeleine sur IFAX, qui vient en complément évidemment de tout ce qui vient d'être dit. Oui, Charles et Caroline.
Allô?
Oui.
Oui, maintenant ça marchera. Voilà. Donc, non, par rapport à ce que tu as dit, mais je reviens par rapport à la thérapie génique. On a tout à fait constaté qu'il y avait beaucoup d'attentes et déjà à ce moment-là, il y avait également beaucoup de réserves parce que tous les chercheurs vont quand même un petit peu dans ce sens-là. Moi, ce que j'aimerais bien également dire par rapport à cette conférence, c'est il n'y a pas qu'un seul courant de pensée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment différents groupes de chercheurs qui ont des approches un petit peu différentes de la maladie. Et ce qui est très intéressant, dans le sens que il n'y a pas une seule vérité actuellement. Hein, je rebondis par rapport à tout à l'heure la recherche cardiaque dont tu parlais, où on se disait, bon, on connaissait déjà tout, et bien finalement, on ne connaît pas tout. On se rend compte qu'il y a certaines choses qui y sont nouveaux. Hein. que certains chercheurs ont découvert. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il y a un grand courant de pensée où on se dit « ça doit être comme ça ». Et parallèlement à ça, il y a certaines équipes satellites qui se disent « oui, mais nous, on a quand même envie d'approfondir, de mieux comprendre, parce que la vérité actuelle nous permet de comprendre 90%, 90% des phénomènes, mais il y a encore 10% qui restent un petit peu en suspens ». Et donc il y a certaines équipes qui continuent à gratter pour mieux comprendre la maladie. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Voilà.
Bien. Madeleine, est-ce que tu peux nous parler d'IFAX, donc ce qui est au niveau européen?
C'est tu muet, moi?
Non, on t'entend.
Voilà, ça y est. Non, vous m'entendez?
On t'entend, oui. Très bien.
Parce qu'il y a marqué muet sur mon truc. IFAX, donc, c'est cette fameuse base de données européenne qui regroupe presque un millier de patients maintenant, étudiés depuis, pour certains, 7 à 8 ans, mais qui continue à être, qui continue à être augmentée. L'équipe se faisait du souci sur le financement, puisque les associations qui avaient financé pendant les associations européennes qui avaient financé pendant un certain temps, ben on n'a plus trop de moyens pour ça. Et on n'est pas là non plus pour financer éternellement ce genre de projet. Mais ils sont donc soutenus par un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Voyageur. Et ils ont obtenu un très gros financement qui leur permet de continuer confortablement d'une fondation américaine qui s'appelle la fondation Christina et qui donc leur permet d'avancer maintenant sans angoisse pendant au moins 2 ans. Voilà, donc Massimo Pandolfo qui menait l'opération est obligé de prendre sa retraite vu les règles belges qui régissent le monde universitaire. Donc il va partir ailleurs, enfin il n'a pas du tout l'intention d'arrêter, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il est encore très très en forme, il va partir ailleurs. On parle du Canada. Bon, pour le moment c'est pas fait, on verra, mais de toute façon on ne le perdra pas. Voilà pour IFAX qui continue.
Et donc, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'effectivement, il va y avoir plus de croisements et de complémentarité entre les bases de données européennes et toutes celles et les américaines, etc. Mais évidemment, là, ils sont dans les discussions éthiques, réglementaires, etc. Comme ça, on arrivera à un vrai registre mondial des personnes ataxiques, que ce soit venant des patients, enfin des familles elles-mêmes qui s'inscrivent, que ce soit des médecins, quand ils voient des personnes dans leur consultation. Donc tout ça, c'est une grande avancée, et ça va donner plus de force à tout ce qu'on va faire, tout ce qui va être fait. Massimo va sûrement aller au Québec parce que c'est là-bas. Il était là-bas quand il a co-découvert le gène avec Michel Koenig. Et c'est vrai qu'il faut saluer des gens comme ça qui ne travaillent que quasiment sur le Friedreich depuis 30 ans ou 40 ans. Donc chapeau. Et ils veulent évidemment, ils ne veulent pas arrêter tant qu'ils n'auront pas trouvé le traitement.